Je suis Jarasuba Zakaria, élève en terminale ES1. Aujourd'hui, dans le cadre de notre conférence, j'aimerais vous poser une question très majeure, c'est-à-dire dans quel cadre et contexte le FMI a-t-il été créé?
Alors bonsoir, je suis José Rion, le représentant du FMI ici en Côte d'Ivoire. Alors le FMI a été créé en 1944 par la conférence de Bretton Woods. Ça a été la conception de plusieurs économistes, mais avant tout, c'était la conception de John Maynard Keynes, qui est l'inventeur de la macroéconomie. Alors, le FMI a été créé à cet état-là parce que on a créé un système de monnaie internationale nouveau après la guerre mondiale, qui essayait d'assurer les échanges commerciaux entre les pays. Et c'était basé sur en français, sur la convertibilité d'une seule monnaie en or, qui était le dollar américain. Et le reste des valeurs des monnaies du reste du monde s'établissait en fonction de cette valeur par rapport au dollar. Alors, étant donné les fluctuations économiques des pays, cette valeur, des fois, changeait. Et ceci créait des problèmes d'ajustement du taux de change. Alors, il fallait une institution qui permette d'arranger ces déséquilibres. Alors, ces déséquilibres, et c'est le FMI qui essentiellement se chargeait de ça. Et là, la charte, l'objectif fondamental du FMI, même maintenant, c'est précisément résoudre des besoins de balance de paiement, ce que nous appelle des équilibres externes. Alors, ce système de Bretton Woods a duré jusqu'à 1973. Alors, en réalité, le FMI, d'une certaine façon, n'avait plus de mandat. Alors, enfin, entre guillemets, hein, dans le contexte du système de Bretton Woods. Mais le FMI a continué à assurer, ça a été l'organisme pour essentiellement résoudre les problèmes de crise de balance des paiements. Et après Bretton Woods, il a continué. En même temps aussi, ce que le FMI a fait dans le passé, depuis 1944 et jusqu'à maintenant, c'est une institution qui évalue les économies pour voir si elles sont en bonne santé ou en mauvaise santé. Et ça, le FMI le continue à faire. Et une autre dernière. Alors, comment on fait tout ça? On le fait à travers. S'il y a un pays en crise ou en besoin de problèmes de balance de paiement, on prête de l'argent pour résoudre ce problème avec des programmes qui ont des conditions que les pays doivent faire pour rééquilibrer leur économie. La deuxième fonction du FMI, c'est la surveillance, c'est-à-dire assurer que les pays se portent bien, on fait ces examens entre guillemets médicaux. Et le troisième aspect, c'est l'assistance technique, c'est-à-dire on envoie nos experts pour aider aux pays à renforcer leurs capacités, surtout dans le domaine des finances publiques et dans le domaine des banques centrales, de la gestion des banques centrales. Voilà. Alors ici en Côte d'Ivoire, on a un programme financier qui est essentiellement fait pour satisfaire les balances de paiement du pays, mais aussi pour accompagner le pays dans la mise en œuvre des programmes nationaux de développement.
Bonjour monsieur, je m'appelle Adam Julien, en classe de terminale ES1 aussi. Alors vous avez été en mission en Côte d'Ivoire, je voulais savoir que pensez-vous de votre mission en Côte d'Ivoire?
Alors ma mission en Côte d'Ivoire, elle est très intéressante. Je ne vais pas dire si elle est bonne ou mauvaise, mais en tout cas, elle est très intéressante parce que je peux contribuer à beaucoup d'aspects au niveau économique pour contribuer à la croissance à long terme et à l'équilibre et assurer les équilibres macroéconomiques du pays, dont je me sens extrêmement ravi. C'est un pays intéressant, je fais plein de choses. C'est un pays dynamique avec une jeunesse qui pousse et qui fait que ce pays est en train d'évoluer dans le bon chemin.
Bonjour monsieur, Bonjour. Je m'appelle Akat Sidana, je suis aussi en terminale ES1. C'était pour savoir quel est le rôle des FMI en Côte d'Ivoire.
Ah oui, alors comme je disais avant, le rôle du FMI en Côte d'Ivoire, il fait les trois rôles. C'est-à-dire avant tout, la première chose, il y a un programme économique et financier qui soutient, qui permet de soutenir ou d'aider à satisfaire les besoins de balance de paiement. Mais il y a aussi, il aide aussi à la mise en œuvre raisonnable et équilibrée du plan national de développement qui aide au développement du pays. Mais aussi, on surveille la situation économique et on donne beaucoup, qui est fait à travers le programme, mais aussi dans d'autres contextes, et aussi on donne beaucoup d'assistance technique, c'est-à-dire de renforcement. On vient ici avec nos experts pour donner des renforcements des capacités dans plein de sujets.
Ok, monsieur, vous avez dit dans la conférence que l'accord aurait été lié à un manque de paiement de TVA, c'est-à-dire des impôts. Maintenant, est-ce que ce n'est pas dû à la corruption en Côte d'Ivoire?
Pas nécessairement. Il y a plein de choses qui expliquent des niveaux des recettes limitées. Il y a aussi le fait que la Côte d'Ivoire vient de loin, de très loin, et a souffert une crise institutionnelle, une crise sociopolitique très importante. Et alors tout ce qui est l'infrastructure pour payer les impôts a disparu, a été fortement endommagé. Donc il a fallu reconstruire ça. Et aussi c'est lié à des choix de politique économique en partie pendant la crise, qui voulaient assurer, on préférait que certains biens et moins d'impôts, mais que ces biens soient meilleur marché pour les populations. Donc, ce qu'il faut faire maintenant, c'est comme la situation maintenant s'est normalisée, comme une croissance économique et les populations sont dans une situation meilleure, il faut revoir tout ce type de décisions. En même temps, il faut reconstruire ou recréer les capacités nécessaires pour pouvoir qu'on puisse collecter les impôts que les assujettis doivent payer. C'est-à-dire, je ne parle pas d'augmenter les taux d'impôt, mais faire que la partie informelle de l'économie se réduise. C'est-à-dire qu'on lutte contre l'informalité. C'est ce qu'on est en train de faire. La corruption n'est pas le gros problème dans ce type de questions. C'est plutôt une question d'efficacité et de reconstruction institutionnelle.
Alors peut-être une dernière question. Donc Richard Asensio, professeur de sciences économiques et sociales, sur quels critères donc vous basez pour prêter donc de l'argent à la Côte d'Ivoire? Quels sont les critères macroéconomiques
C'est essentiellement, l'assistance du fonds est faite à la demande des autorités. Et alors nous, le montant que la Côte d'Ivoire peut recevoir dépend de critères macroéconomiques, mais dépend fondamentalement du quote-part de la Côte d'Ivoire au FMI. La Côte d'Ivoire est actionnaire et ils ont ce qu'on appelle un quota. Et c'est en fonction de ce quota qu'on prête de l'argent. Alors maintenant, le programme financier de la Côte d'Ivoire actuel est d'environ 100% de quota. Donc il y a des différences, mais c'est normalement le montant. Un montant normal de prêt. Il y a des fois où il y a des prêts exceptionnels et ça peut aller au-delà de 100%. Il y a plein de fois où ce qu'on veut, c'est un petit appui budgétaire, appui financier, donc c'est moins de 100%. Mais c'est essentiellement comme ça. Alors, comment ce quota s'évalue? Il y a une série de paramètres. Il y a une série de paramètres économiques. C'est la taille de l'économie, les échanges internationaux. Donc, c'est une espèce de moyenne pondérée qui, en fonction des fonds disponibles du fonds, c'est ce qui permet de calculer ce quota.
Bon, ben écoutez, je vous remercie pour cette interview.
Merci beaucoup.